Presque une semaine après de nouvelles évacuations de camps et de squats de migrants à Calais, on est par téléphone avec Philippe Vanesson de Passeur d'Hospitalité. C'est un blog qui informe de l'intérieur de ce qui se passe à Calais. Vous êtes en ce moment même à Calais. Alors comment est-ce que ça s'est passé la semaine dernière, ces évacuations? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé?
En fait, ça a été au départ très rapide pour ce qui est du lieu de distribution des repas, donc qui était occupé par quelques centaines d'exilés depuis un mois, qui a été encerclé par les gendarmes mobiles qui ont pénétré, qui ont fait sortir les militants et les journalistes qui étaient à l'intérieur, avec visiblement une consigne de faire le tri et de qu'il n'y ait pas de témoins en fait à l'intérieur. Pour les personnes qui étaient à l'extérieur, ça a été pareil. En fait, il y a eu un rideau de gendarmes mobiles qui peu à peu nous a fait reculer jusqu'à ce qu'on puisse plus voir ce qui se passait à l'intérieur. Et ensuite, les gens ont été emmenés en bus. Ça a pris pratiquement toute la journée. Les derniers sont partis après 17 heures, sachant que l'intervention avait commencé à 6 heures du matin. Ils ont été emmenés vers des commissariats de police pour les uns. Et ensuite, éventuellement, transférés en rétention. Et pour les autres, en fait, les derniers qui ont été emmenés, comme il n'y avait plus de place pour les mettre dans les commissariats et pas assez de place en centre de rétention, en fait, ils ont été emmenés en bus jusque Douai, Valenciennes, certains jusqu'à Paris, Arras aussi, et le bus s'est arrêté. Éventuellement, les policiers leur ont indiqué le chemin de la gare et leur ont dit de s'en aller. Ce qui veut dire, pratiquement 12 heures de privation de liberté sous un régime légal indéterminé pour eux. En parallèle, il y a aussi 3 squats qui avaient ouvert au mois de février qui ont été évacués. Pareil, avec on met les militants, les journalistes présents à l'écart, au besoin brutalement les aspergeant de lacrymogènes et on arrête les exilés ou les personnes identifiées comme telles aux faciès qui sont à l'intérieur. Les mineurs ont été aussi triés en fonction de leur tête ou de ce qu'ils pouvaient dire et emmenés vers 2 lieux qui ont été réquisitionnés pour la circonstance. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que mis à part les 200 personnes qui ont été placées en rétention, dès le soir même, le lendemain, le surlendemain, on a vu les gens revenir. Les mineurs parce qu'ils ne sont pas restés dans les lieux où la police les avait emmenés. Les autres parce que ils étaient largués dans différents endroits ou parce qu'ils étaient libérés du commissariat et en fait ils sont revenus sur Calais. Et ce qu'on commence à voir maintenant, c'est les annulations des procédures de placement en rétention et d'autres gens qui reviennent puisqu'il y a eu pas mal d'irrégularités dans les procédures.
Je reviens sur quelque chose que vous avez mis en avant, c'est le fait que les témoins, journalistes et militants ont été mis à l'écart. Ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, me semble-t-il. Avant, il y avait eu quand même plusieurs évacuations de camps, mais qui avaient été filmées, qui avaient eu aussi un impact sur l'opinion publique. Là, rien, quoi.
Oui, tout à fait. Y compris d'une impasse voisine, on arrivait à voir de loin les bus dans lesquels montaient les exilés. À partir du moment où il y a des journalistes qui sont arrivés avec des caméras, 2 camionnettes de gendarmerie sont venues se mettre en travers pour boucher la vue et qu'on puisse pas voir, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose de délibéré à tous les niveaux. Et visiblement, ça correspond à des consignes que les policiers ont reçues.
Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, le préfet avait alors peut-être prévenu en fait de cette rafle d'une manière, dans ses mots, c'était un peu une main tendue, en disant il y a des procédures légales qui existent, il y a la demande d'asile qui est possible en France. C'est complètement contradictoire avec ce qui vient de se passer.
Oui, d'autant plus que, en fait, il y a eu un effet d'annonce avec y compris le directeur général de l'OFRA, qui est l'organisme qui examine les demandes d'asile, qui est venu à Calais au lieu de distribution des repas pour rencontrer les exilés et proposer un espèce de dispositif exceptionnel qui, pour une grande partie, était la simple application de la loi que l'État ne respecte pas toujours. Et en fait, le problème, il est triple. D'une part, il y avait pas les moyens, notamment en termes de traducteurs, pour vraiment faire une démarche d'explication vis-à-vis des gens. D'autre part, on a des gens qui arrivent en France, qui voient à Paris ou dans les grandes villes où ils passent des demandeurs d'asile qui vivent à la rue pendant des mois, et qui, une fois arrivés à Calais, sont tabassés par les flics sur les parkings ou ailleurs, ou dans les campements. Donc, qui n'ont qu'une impatience, c'est de quitter ce pays-là. Et en plus, les gens qui ont choisi en fait cette option de demander l'asile à ce moment-là ont été éparpillés souvent dans des hébergements d'urgence aux quatre coins de la France, sans qu'on sache s'il y aurait un accompagnement, finalement. Une demande d'asile, c'est un dossier à remplir en français, pour des gens qui parlent pas du tout la langue, c'est un entretien préparé avec l'OFPRA, c'est des démarches administratives. S'il n'y a pas d'accompagnement, les gens peuvent pas s'en sortir et ça veut dire qu'ils vont recevoir une réponse négative et qu'on va les revoir dans quelques mois. Donc nous-mêmes qui aurions pu considérer que c'était une option intéressante, on n'a pas du tout conseillé aux gens d'entrer dans cette démarche parce qu'il n'y avait pas les garanties qu'il y aura un accompagnement de qualité.
Vous l'avez dit, les migrants finalement reviennent. Donc finalement, c'était quoi? C'était une manière d'essayer de décourager à nouveau les migrants de passer. Enfin, comment vous voyez cette action en fait?
C'est assez difficile de savoir où l'État veut aller. Je ne sais même pas le gouvernement, je ne sais pas à quel niveau la décision s'est prise, probablement pas simplement au niveau du préfet, mais probablement plus haut. Je ne sais pas si, au niveau du gouvernement, ils savent où ils veulent aller. On a la reproduction un peu toujours la même chose, c'est-à-dire des expulsions. Cette fois-ci, comme en 2009, une rafle massive avec placement de plusieurs centaines de personnes en rétention. On sait très bien que ça marche pas. On sent que les gens qui sont en face du côté des autorités savent très bien que ça ne marche pas. Mais en même temps, on continue dans ce même cycle de violence, d'expulsion, etc. Sans engager le débat sur comment on pourrait faire autrement. Like a real man, so gotta hustle and stay on my grind, even if it takes me to foreign land.
Respect all the Mexicans, Guatemalans, El Salvadorians, Costa Ricans, Nicaraguans, Ecuadorians, Cubans, Chinese, Koreans, Vietnamese, Croatians, Israelis, and Lebanese, Haitians.
On est toujours par téléphone avec Philippe Vanesson du blog Passeur d'Hospitalité, un blog sur les exilés à Calais. Vous avez fait référence au rafle de 2009. Bon, depuis quand même, il y a eu quelques améliorations, un dialogue qui s'est construit quand même entre les associations, les pouvoirs publics. Et là, à nouveau, on a l'impression d'un retour en arrière. C'est comme ça que vous le voyez?
Oui. En fait, il y a eu des réunions de concertation qui se sont mises en place à partir de l'automne 2012, qui n'ont pas été très productives, mais au moins les associations et les autorités se parlaient. Et il y a eu un précédent, en fait, c'est le squat du boulevard Victor Hugo qui hébergeait des femmes et qui n'a pas été expulsé sans qu'il y ait une solution de relogement, en fait. C'est une association d'insertion qui a repris la gestion du lieu, puis les femmes ont été transférées ailleurs, alors dans des conditions pas forcément idéales, mais en tout cas, on était sur ce précédent qui faisait que peut-être qu'on pouvait discuter sur le fait que les gens quittent un lieu, mais pour aller sur un autre lieu qu'on pourrait aménager avec des douches, des toilettes, des choses comme ça. On était plutôt un peu dans cet esprit-là, et on a vu le 28 mai que c'était pas le cas, puisqu'on a déjà eu une expulsion sèche. Il y a quand même eu un essai de dialogue de la part de l'État avec les exilés qui occupaient le lieu de distribution des repas et avec les associations. Et puis très vite, ça a disparu. La préfecture s'est murée dans le silence. Et voilà, maintenant, ils ont tapé une première fois à la fin du mois de mai. Ils tapent plus fort cette fois-ci. Et en fait, les gens sont simplement plus dispersés dans la ville. La plupart sont revenus ici. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Alors, il y a une manifestation, enfin un appel à manifester qui est lancé hein, par le collectif ouais. No Border ce samedi 12 juillet à Calais, 14h place d'Armes. Un mot peut-être sur cette manifestation ?
Alors, il y a un appel en fait qui est commun aux associations et aux collectifs, etc., qui n'est pas spécifique à No Border en fait, qui a été signé par des associations locales, régionales, nationales. Sachant que No Border a aussi fait un appel spécifique à la mobilisation à partir de ce samedi, mais un peu à plus long terme. Donc il y aura une manifestation samedi, et il y a d'autres événements artistiques ou autres qui sont en préparation pour le week-end.
Un mot peut-être, Philippe Vanesson, c'est sur votre blog, parce que il y a un enjeu très important sur l'information. Hein. Vous tenez un blog où vous essayez de faire passer l'information sur ce qui se passe de l'intérieur, comme je disais, à Calais, avec aussi des interviews audio de migrants. Un mot sur tout ça ?
Oui, enfin, l'idée, c'est d'arriver à faire comprendre à des gens qui sont pas sur le terrain une situation qui est très complexe, de déconstruire un peu le discours langue de bois sur les migrants, sur les passeurs, sur tout un tas de choses où il y a énormément de clichés qui sont ressassés et qui reviennent. Et d'essayer donc que quelqu'un qui essaye de comprendre la situation puisse y avoir accès. Les interviews, c'est aussi une manière de donner directement la parole aux gens. Et c'est vrai que les exilés, on les entend peu s'exprimer, en fait. C'est souvent les associations qui parlent. Donc c'était un peu l'occasion de leur donner la parole aussi.
Philippe Vanesson qui anime l'excellent blog Passeurs d'Hospitalité au pluriel, contacté par téléphone hier après-midi. Je vous rappelle le rendez-vous de la manif de solidarité avec les exilés contre les violences policières. C'est ce samedi 12 juillet à Calais, place d'Armes à 14h.
My Armenians, my Dominicans, Filipinos, Puerto Ricans, Australians, Ethiopians, and Brazilians, Japanese, Canadian, Taiwanese, Tongan, Belizean, Bayesian, Icelandic, Sri Lanka, Pakistani, or Palestinian. We're all descended from immigrants, except American Indians. INS, Border Patrol, Green Card, Amnesty, the law deports illegal aliens. Imports versus exports, human transport, smuggle this melting pot through California, Arizona through New Mexico, Texas on through to Florida, and you know where the rest to go, either in political asylum or a prisoner extradited with no diplomatic immunity. Most undocumented workers contribute something to our society, and our community is the base of our economy. I must cross this borderline, they keep me from getting mine, sending money back all the time, to the family I had to leave behind, just trying to do the best I can, a provider like a real man. Gotta hustle and stay on my grind, even if it takes me to foreign lands. I must cross this borderline, can't they keep me from getting mine? Sending money back all the time to the family I had to leave behind. Just trying to do the best I can, a provider like a real man. So gotta hustle and stay on my grind, even if it takes me to foreign lands.
The Jamaican, the Iranian, the Italian, the Germans, the French, Spanish, the Danish.